C'est Ludique, 9h30, 10h.
Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est Ludique, les amis. Au programme aujourd'hui, je vais vous parler de Chat de Poche, un petit jeu pour deux joueurs. En fin d'émission, on retrouvera Jeu et Apprentissage avec bien sûr Paul-Henri et Céline autour du jeu Footsie, comment on joue à Footsie à l'école. Et puis pour commencer, c'est bien sûr Anne-Gaëlle que l'on va retrouver. Alors Anne-Gaëlle qui a eu un petit empêchement de dernière minute, mais elle a tenu quand même à enregistrer sa chronique, donc on va la retrouver tout de suite. Elle va nous parler notamment de Bubble Story.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour parler de jeux pour les pitchounes. Et oui, on va être plutôt sur du 4 ans cette semaine avec deux jeux qui sont sortis chez Blue Orange. Le premier est un jeu bien connu, c'est Bubble Stories. Bubble Stories, il a eu l'Astor. Et on en a reparlé en septembre avec Bubble Stories Vacances. Et aujourd'hui, si on en parle, c'est parce qu'il y a Bubble Stories Conte. Donc c'est un jeu de Matthew Dunstan, illustré par Marine Cazot, à partir de 4 ans pour 1 à 2 joueurs, hein, souvent l'enfant peut jouer seul, mais souvent il va être accompagné de l'adulte et pour des parties d'environ 10 minutes. Et en fait, Bubble Story, ça va vous projeter dans les contes cette fois-ci, avec trois contes connus, Boucle d'or et les trois ours, Le Petit Chaperon Rouge et Jack et le haricot magique. Comment ça fonctionne Bubble Stories? Vous allez avoir des petits paquets de cartes, donc il y a trois paquets de cartes pour les trois aventures, et on va demander à l'enfant de parcourir l'histoire à travers des bulles, en passant de bulle en bulle, pour rechercher trois objets. Donc si je vous prends par exemple celui du petit chaperon rouge, c'est l'anniversaire de mamie, de la grand-mère, il va falloir lui faire un gâteau, donc on va avoir trois objets à récupérer, un fond de tarte, une bougie et des fruits, des baies à poser dessus. Donc en fait, l'objectif pour les enfants, ça va être de retrouver les trois objets. Donc on va avoir une scène de départ avec des bulles et l'enfant va pouvoir nous dire, tiens, je vais aller voir ce qui se passe derrière le buisson. Donc on prend la carte où il y a le petit buisson avec la bulle avec le petit buisson, on la retourne et on voit ce qui se passe. L'enfant peut soit finir par trouver un des objets demandés, donc ça sera symbolisé par une étoile, ou alors tomber sur une carte impasse, une petite croix. Alors c'est pas un jeu qui va être punitif pour les enfants, on va pas dire à l'enfant, boum, t'as perdu, t'es nul. On va plutôt avoir bulle de bronze, bulle d'argent et bulle d'or selon le nombre de cartes impasses que l'enfant aura trouvées sur son chemin et durant son aventure. Alors on pourrait croire comme ça que les petites aventures, elles ne sont pas rejouables, qu'une fois que c'est fait, c'est fait. C'est vrai, mais vous verrez que les enfants vont adorer y rejouer encore et encore. Et alors moi, je me souviens, Luna, sur le premier Bubble Story, ce qu'elle a fait, elle faisait semblant, elle essayait de se tromper, elle essayait de se souvenir quelle était la bonne solution pour passer par toutes les impasses et avoir les impasses. Bon, je sais pas si tous les enfants font ça, mais en tout cas, Luna s'amusait à faire ça. Donc je vous disais, donc il y avait le petit chaperon rouge, mais on voit aussi avoir Boucle d'or, qui va faire un goûter chez la famille ours, et il faut retrouver tous les éléments qui partageront, qui permettront à Boucle d'or et aux trois ours de partager un petit repas. Et Jack et le haricot magique, cette fois-ci, on va visiter l'immense demeure du géant, et puis on va essayer de récolter des provisions sans se faire attraper par l'énorme personnage. Donc voilà, c'est des univers assez connus, ça reprend pas exactement l'histoire, c'est plutôt une petite histoire autre, donc n'hésitez pas, on peut aussi le lier avec les vrais contes pour les raconter aux enfants. Donc ça c'est chouette, je trouve que c'est des univers vraiment connus, les contes, hein, quand ils sont en maternelle, surtout à 4 ans, on va souvent être dans les contes, les histoires, les parents vont leur raconter tout ça. Donc c'est vrai que c'est un univers connu qui plaît pas mal. D'ailleurs, dans la boîte, il y a donc trois histoires, ça je vous l'ai dit, mais il y a aussi un petit scénario d'initiation pour éviter de passer par l'explication de règles, parce que les enfants de 4 ans, ils vont pas avoir une super attention, donc expliquer des règles, tiens, on va avoir des cartes, il y a des bulles, il faut que tu me dises où tu veux aller, etc. Et il y a rien de mieux que de sortir le scénario d'initiation. C'est il y a 6 cartes et puis on va expliquer vraiment comment ça va se passer à l'enfant, lui montrer comment on avance dans l'aventure, comment on arrive à récupérer des objets, et puis comme ça après on peut se lancer directement sur une aventure qui va être un petit peu plus longue, mais on est bien sur une dizaine de minutes dans un univers toujours très très joli et très bien illustré pour un tout petit prix. Le deuxième jeu à sortir chez Blue Orange, qui est déjà sorti, c'est Costume Monsters. C'est un jeu de Thomas Favolière qui est illustré par Alexandre Roux et ça se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 5 ans. Je disais 4 ans tout à l'heure, mais 5 ans, tout en sachant que ce jeu pourra être joué à 4 ans. J'ai essayé avec des enfants de 4 ans, ça marche très bien. Et si vous allez voir que ça va être un peu un duel de rapidité, si c'est trop difficile pour l'enfant de 4 ans, on peut tout à fait lui proposer le jeu un peu en coopératif, être avec lui, lui dire tiens, il faut qu'on le fasse, ou rajouter un petit sablier pour faire du temps. Mais les enfants de 4 ans adorent. Parce que je vous ai dit, Costume Monster, c'est un jeu qui est rapide, donc 15 minutes, 10-15 minutes. Ça peut largement se faire avec des enfants de 4 ans sur ce temps-là. Ça va vraiment être juste la rapidité qui va changer. Mais Costume Monster, s'il y a des monstres, et des monstres un peu rigolos, mignons, et ça, les enfants, ils aiment tout de suite. Alors, pour vous mettre un petit peu dans l'histoire, en fait, il y a un concours de déguisement, mais nos monstres ne sont pas prêts. Alors, on va vite filer dans notre chambre, on va ouvrir la malle avec tous les accessoires, ce qui va être finalement la boîte de jeu. On va ouvrir la boîte de jeu et on va sortir plein d'accessoires et il va falloir habiller nos petits monstres. Alors, pour que vous imaginiez un petit peu le matériel, on a des disques transparents avec des monstres tout haut en couleur. Il y en a quatre. Donc, un bleu, un vert, un orange et un violet en dominante, puisqu'ils sont un peu multicolores. C'est très punchy. Et on va donc avoir ces disques transparents avec juste les monstres. Et au milieu de la table, on va installer tout un tas de déguisements. Alors, ils sont vraiment cartonnés, épais. Vous pouvez y aller sans aucun souci. Les tout petits vont pouvoir les manipuler sans forcément... sans les abîmer. Souvent, on voit les pièces de jeu, on a peur que les enfants, quand ils les attrapent avec leurs petites mains, ben, ça finisse plié et abîmé. Là, c'est pas du tout le cas. C'est des pièces vraiment solides et agréables à manipuler. Et en fait, comment ça va se passer? On va soit jouer en 1 contre 1, soit on va pouvoir jouer en 2 contre 2. Ça va dépendre de qui est autour de la table. Nous, on a souvent joué en 1 contre 1 plutôt. Je trouve que ça se prête davantage. Et vous allez retourner en fait une carte qui va être divisée en 4 parties. On va voir un fond bleu et un fond jaune. Le fond bleu correspondra à un joueur qui sera le joueur de l'équipe bleue. Et l'autre fond jaune correspondra au joueur qui est jaune en fait. Et sur chaque fond, vous allez avoir 2 monstres. Donc en fait, chaque personne aura 2 monstres à déguiser. Et ça va se jouer en fait en rapidité et tout va jouer en même temps. Donc en fait, on va retourner la carte, on va regarder les monstres, on va récupérer les bons monstres, ceux qui sont de notre équipe au milieu de la table, on va les mettre devant nous et il va vite falloir les déguiser en fonction de ce qui est représenté sur la carte. Donc si on voit que mon monstre il a un chapeau de pirate, et bah pouf, je trouve vite le chapeau de pirate. Et donc les 2 joueurs font ça en simultanément, il va falloir retrouver les accessoires le plus vite possible dont on a besoin et seulement dont on a besoin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dès qu'il y en a un des joueurs qui a terminé, il va vite crier « déguisé !» pour dire en gros « je suis prêt ». Et là, à ce moment-là, on va vérifier les monstres, voir si c'est correct. Si les monstres sont bien déguisés, bah bravo, en fait, on récupère la carte. Si par contre, on a fait une erreur, un oubli, qu'on s'est trompé, on a rajouté quelque chose, la carte ira à l'adversaire. Et dans ce cas-là, on lui fait un cadeau, hein. Bah oui. Puisque le but du jeu, ça sera d'être le premier joueur à réunir 5 cartes. Et le joueur qui a 5 cartes gagne la partie. Donc forcément, si on veut aller trop vite, qu'on oublie quelque chose et qu'on ne fait pas très bien attention, attention, on risque de gagner, de donner une carte en fait à l'adversaire et qui se rapproche un peu plus de la victoire. Donc il va falloir faire attention à ça. Et l'enfant, sur une rapidité, des fois, ils peuvent un peu en mettre partout, mais ils peuvent aussi sacrément nous étonner. Alors, il faut savoir que ce jeu-là, l'adulte peut être plus rapide que l'enfant au tout départ. Ben, nous, ce qu'on faisait, c'était un peu rigolo. Luna me donnait en fait des petits défis de comment attraper les objets sur la table. Donc par exemple, je devais avoir une main dans le dos, je devais avoir la tête qui touchait la table, etc. Donc c'est elle qui me donnait un petit peu des difficultés pour rendre le jeu un petit peu plus difficile et plus accessible pour elle. Finalement, même parfois sans qu'il y ait besoin de ces petites difficultés, elle réussissait très bien à m'avoir. Donc voilà, c'est un jeu qui peut être très chouette. Alors ils ne mettent pas spécialement un joueur, mais il faut savoir aussi que je pense que ça peut être un bon jeu d'observation, c'est-à-dire j'observe les monstres pour les plus petits. Là, je parle même pas à 5 ans, vraiment à 4 ans, voire même 3 ans. On peut regarder les monstres autour de la table, enfin, qui sont dessinés sur les cartes, voir les accessoires autour de la table et déguiser son monstre comme le modèle. Donc je pense que c'est un jeu qui peut être utilisé à la fois comme outil un peu pédagogique, un peu d'observation, et à la fois comme le jeu le prévoit, comme un jeu de rapidité où il faut faire ça le plus vite possible. Voilà, c'est dans un univers vraiment trop mignon, ça attire, et en plus les pièces se portent à être manipulées par les plus petits, donc je pense que c'est jouable. Et nous, en tout cas, on a essayé avec des 4 ans et ça fonctionnait vraiment très très bien, c'est très très mignon. Donc voilà, 2 jeux qui sont sortis donc chez Blue Orange cette année, vous pouvez les retrouver en boutique. Et moi, je n'ai plus qu'une chose à vous dire, À la semaine prochaine pour jouer à cache-cache cette fois.
En famille ou avec des amis, c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Un chat, c'est bien connu, s'il voit un chien, il aura tendance à fuir. Mais en même temps, eh bien, il aimerait bien attraper la petite souris qui le nargue à quelques mètres de lui, ou le pigeon qui vient de se poser près de sa gamelle. À vous de placer correctement vos chats afin d'attraper un maximum de proies sans vous faire croquer par les chiens. Voici Chat de poche, le nouveau jeu d'Alexandre Aguilar, accompagné de Romaric Gallonnier, qui sort pas mal d'un de jeux en ce moment, courtisan notamment, et qui a obtenu l'As d'or enfant avec Antonin Bocara pour mon puzzle aventure. Alors Chat de poche est le premier jeu d'une nouvelle gamme petite boîte chez les Lumberjacks. Pour deux joueurs, chaque joueur va choisir un clan de 5 chats, il y en a 7 au total, ce qui vous donne une bonne rejouabilité. On va mélanger les 5 tuiles de chaque joueur avec les tuiles proie et les tuiles chien. Il ne vous reste plus qu'à poser ces 25 tuiles en formant un carré de 5 par 5, face cachée, puis on va révéler la tuile du milieu. La partie s'arrêtera quand toutes les tuiles seront révélées. Alors à votre tour, vous allez retourner une tuile, puis vous échangez celle-ci avec une autre tuile de la grille, mais bon, il y a quand même quelques conditions. Si vous retournez un chat, le vôtre ou celui de votre adversaire, le déplacement pourra se faire avec une tuile se trouvant au maximum à 2 tuiles de celle-ci en ligne ou en colonne. Si vous révélez une proie, toutes les tuiles adjacentes mais aussi en diagonale seront possibles pour l'échange. Enfin, le chien peut changer de place avec une tuile se trouvant dans sa ligne ou sa colonne. Par contre, il faut savoir qu'un chien déplacé, après, ne bouge plus. Il reste là, il surveille le jeu des chats et des souris. Pour résumer mon tour, je révèle une tuile et je la déplace avec une autre en respectant les contraintes. Bien entendu, si je déplace une tuile face cachée, je la laisse cachée. Une fois toutes les tuiles révélées, on va passer à la fin de partie et au décompte des points. On commence par l'attaque des chiens, sachant que les chiens ont des flèches qui indiquent l'orientation de leur attaque. Tous les chats qui sont visés par l'une des flèches verticales, horizontales ou diagonales sont retirés du jeu. Ils ne vous feront pas marquer de points. Vient ensuite la capture des proies avec les chats qu'il vous reste. Les chats ont des valeurs, le clan présent avec le plus grand total remporte la proie. Les chats, pour être comptabilisés, doivent être adjacents orthogonalement. Il y a 3 types de proies, les souris qui vous rapportent les points indiqués sur leur tuile, les pigeons qui vous rapportent les points indiqués sur leur tuile également, mais si vous attrapez les deux, eh bien vous multipliez leurs points au lieu de les additionner, et c'est idem pour les mouches. Mais ce n'est pas tout, car ce sont les règles de base. Chaque clan de chat a un effet permanent ou de fin de partie, sans compter que le chef du clan, celui qui a le pitopathe de chat, aura une capacité spéciale. Le chef des gourmands attrape aussi les proies en diagonale, alors que celui des griffes du roi permettra de faire pivoter un chien pour éviter qu'il se fasse croquer la queue. Pour vos premières parties d'ailleurs, l'éditeur vous conseille de jouer avec ces deux clans. Mais après, vous pourrez jouer avec les autres clans, les chats à peu près, les malfrats, les justiciers ou encore les power cats. Et bien justement, le chef des power cats, lui, attrape les proies dans toute la ligne et la colonne. Et en plus, ce clan a un pouvoir qui permet aux joueurs, quand il révèle un chat, il n'est pas obligé de le déplacer. Et ça, c'est plutôt sympa. Je vous laisserai découvrir les pouvoirs de tous les clans. Celui qui a le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, on se partage la victoire, sauf si vous jouez avec les justiciers qui, eux, remportent toujours les égalités. Chat de poche, c'est un jeu de duel. Vous aurez envie d'enchaîner les parties, une revanche et peut-être même, d'ailleurs, une belle. Ça se joue très rapidement, un jeu avec pas mal de stratégies dans vos déplacements, sachant que chacun aura sa capacité et qu'il faudra en tenir compte.
C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
C'est mercredi, et le mercredi, on parle de jeux et d'apprentissage avec Paul-Henri et Céline. Bonjour.
Bonjour.
Et bonjour.
Alors aujourd'hui, on va parler d'un jeu autour de la mémoire qui s'appelle Foxy.
C'est ça, un jeu sur la mémoire et sur l'observation qui va nous amener en fait à découvrir différentes situations dans 4 environnements, la mer, la savane, la campagne et la forêt. Mmh. Et en fait, au fur et à mesure du passage de ces différentes images, il va falloir retenir à chaque fois les différents types d'animaux qui sont passés et leur quantité.
D'accord, donc on va croiser pas mal d'animaux pendant tout le jeu.
Voilà, il y en a maximum 9 variétés, sauf qu'en fait, à chaque fois qu'un animal va passer, si par exemple je vois un chat et qu'il y a déjà eu 2 autres chats qui sont passés dans les diapositives avant lui, et bien en fait, il va falloir que je compte le chat comme valant 3.
Ah,
je
oui.
vais additionner les autres chats qui sont déjà passés auparavant.
Il faut avoir une mémoire qui permette de revenir en arrière.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, ça va jouer sur l'attention, sur la mémoire. Et ça a aussi un avantage à jouer en classe, à le jouer un petit peu à la manière d'un perfectoire, de façon différente. Donc, Céline va vous expliquer comment on a l'habitude de le présenter.
Oui, alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a scanné une séquence de cartes.
Ouais.
Et on diffuse aux enfants, via le tableau numérique, ces différentes cartes.
Donc, d'accord.
Cela nous permet de projeter ça à l'ensemble du groupe classe, parce que souvent quand on parle de jeux de société en classe, il y a pas mal de collègues qui se posent la question comment ils vont le mettre en place. Mais là, c'est une façon assez facile de toujours gérer son groupe en étant face à son groupe classe, en animant et en permettant à chacun de jouer en même temps. Alors, on les met souvent en binôme autour de la fiche score. Ça leur permet de discuter et de réfléchir sur ce qui est passé avant.
Ouais.
Donc, ça les aide aussi. Et voilà, c'est un moment qui est assez sympathique. Après, pour les plus jeunes, moi, j'ai fait une variante où je ne mets pas les 20 nombres de tours.
OK.
Prévu initialement, voilà. J'en fais un petit peu moins. Et ça leur permet quand même d'accéder à la complexité du jeu, d'avoir déjà les différents types d'animaux et de les compter depuis le début de la partie, ce qui est déjà pas mal. Mais voilà, c'est une façon d'introduire le jeu assez facilement dans sa classe.
Et on n'a pas tendance à copier sur l'autre ?
Ben si, bien sûr. C'est oui, ça qui est rigolo.
Ça copie de partout. Et puis, ce qui est sympa avec ça, c'est qu'on n'est pas sûr que le voisin ait vraiment une meilleure réponse que nous.
Mais oui.
Et ce qui est rigolo aussi par rapport à la règle, c'est que si, par exemple, la réponse est 9, en cumulant donc les animaux qui sont présents sur l'image, plus ceux des mêmes catégories qui sont passés avant,
ouais.
Et ben en fait, là, tous les chiffres qui sont inférieurs seront des bonnes propositions. C'est-à-dire que si la réponse est 9 et que je mets un 8, je marquerai quand même 8 points.
Ouais.
Le risque, c'est d'aller chercher trop haut et de ne rien compter. Donc en fait, on va se rendre compte en comparant à côté qu'il y en a un qui va dire oh, ben moi je mettrais plutôt 7, l'autre il dirait mais non, 8, c'est sûr, j'en suis sûr. Et en fait, c'est rigolo parce que ça fait appel justement à tous ces paramètres qui, au bout de 20 diapositives, c'est quand même difficile d'être certaine.
Ouais, et c'est là qu'on voit l'écart entre certains enfants, c'est qu'il y en a qui vont être plus dans la prudence et il y en a qui vont tenter la prise de risque parce qu'ils vont être un peu stratégiques, ils vont essayer de passer au-dessus, mais qui vont se planter.
Ouais.
Ouais.
Et puis on parlait du donc, chat tout à l'heure sur les cartes, il n'y a pas qu'un animal par carte, hein, donc c'est beaucoup plus compliqué.
Oui.
Hein.
Et oui.
Mais oui, c'est ça. Et après... Céline parlait un petit peu des variables pour la classe. On peut jouer sur la quantité de cartes, on peut aussi jouer sur les différents univers. Comme il y a quatre univers différents qui se mélangent, tu peux avoir par exemple le chat qui apparaît à la ferme, mais qui apparaît aussi
dans la forêt, ou...
même dans la mer, il est mis avec
ouais, les
il
est mis avec ça.
Ouais.
On peut limiter, voilà, il y a vraiment moyen en classe de limiter, de le rendre très accessible aux enfants, et au fur et à mesure qu'ils augmentent leur capacité de mémorisation et d'attention, et qui sont de plus en plus à l'aise, c'est vraiment un jeu où on a une grosse amplitude pour pouvoir,
oui.
pour pouvoir développer la profondeur.
Et puis la taille des animaux, je crois, est différente aussi sur les cartes.
Hein. Oui, ah ben en fait, des fois,
on
tu vas avoir
plus ou moins près.
Oui, tu vas avoir une poule, c'est très rigolo ça, tu vas avoir une poule qui vient juste devant l'objectif, et puis tu peux avoir une poule qui est en fond dans la prairie.
Ouais, donc faut bien regarder partout. Et puis, il y a une particularité aussi, il y a la carte Fauci, la carte du renard. Qu'est-ce qui se passe alors, Paul-Henri, quand cette carte arrive ?
Ben, en fait, quand cette carte arrive, ça oblige notre cerveau à fonctionner différemment.
Ouais.
Puisque là, on a juste un gros renard face à l'objectif, il va falloir marquer le nombre de variétés d'animaux que l'on a vu jusqu'à maintenant. Sachant que le maximum est 9. Et donc là, c'est quand même assez rigolo parce qu'on doit vraiment se dire « Attends, est-ce que ça on l'a vu, est-ce que ça on l'a pas vu ?» Et ensuite, on doit remettre notre cerveau en place parce que la carte Foxy peut apparaître parmi les 20, mais ensuite, on va revenir au système traditionnel de comptage.
Ouais.
Donc ça oblige aussi, ça oblige à avoir cette flexibilité mentale et cette capacité d'inhibition des autres signaux. Enfin, je sais que souvent quand on fait jouer les personnes et nous quand on a fait jouer nos élèves, il y a besoin d'avoir une deuxième partie pour et s'approprier la règle et être dans la mémorisation parce que c'est un exercice même s'il est court qui est assez intense.
Ah ouais, on n'est pas sur un simple memory avec Fauci.
Ouais, on n'est pas sur un simple memory et puis il y a un vrai plaisir à jouer avec la mémoire et la phase de correction aussi est agréable.
Oui, tout le monde prend sa petite tablette là et hop et on coche.
Et on a un petit tableau qui permet de récapituler aussi carte par carte les animaux qui sont passés. Donc ça, c'est intéressant de le faire avec eux aussi.
Oui, comme ça, ils voient qu'on est vraiment sur quelque chose de très objectif. Et après, le matériel qui est fourni dans la boîte est vraiment top. La qualité éditoriale, les images sont
utilisées. Oui, les illustrations.
Voilà. Et nous, la retranscription qu'on a faite vraiment en les scannant et en les mettant dans le tableau, on a vraiment réutilisé que le matériel qui est fourni dans la boîte. Et ça me fait vraiment un jeu qui est très facile et à mettre en place, et à utiliser, et à faire varier selon les difficultés.
Ah, et puis on peut jouer avec de nombreuses personnes.
Ouais.
Eh bien, merci beaucoup, Paul-Henri. Merci, Céline.
Avec plaisir.
On se retrouve la semaine prochaine. Salut.
Salut.